Merci mon frère. Vous allez bien? Tous bien? Dernier jour des vacances? Farid est en forme? Pour tous les autres, les vacances commencent demain, les enfants retournent à l'école. Il y a encore des étudiants, j'imagine, qui sont en vacances. Restez concentrés aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet ô combien important. On va parler de l'obéissance. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles et on va ouvrir la parole dans le livre de Jonas. Donc Jonas, c'est après Abdias et avant Michée. Et on va venir chercher Jonas 1, qui se trouve avant Jonas 2. Et je vais lire. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes: Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit: Eh oh, tu dors? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être ton Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux: Allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent donc au sort et Jonas fut désigné. Alors ils lui demandèrent: Fais-nous savoir qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes occupations? D'où viens-tu? De quel pays? Et de quel peuple es-tu? Et Jonas leur répondit: Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Il leur apprit qu'ils s'enfuyaient loin de la présence de l'Éternel. Aussi ces hommes furent-ils saisis de crainte, d'une grande crainte, et lui dirent: Pourquoi as-tu fait cela? Comme la mer se démontait de plus en plus, ils lui demandèrent: Que te ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraire? Il leur répondit: Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera, car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. Ces hommes se mirent d'abord à ramer de toutes leurs forces pour regagner la côte, mais ils n'y parvinrent pas, car la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent: Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme, et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent, car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. Puis ils prirent Jonas, le jetèrent par-dessus bord. Et aussitôt, la mer en furie se calma. Alors, l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on sait de Jonas? On sait peu de choses en fait dans la parole sur Jonas. On sait que c'était un prophète. On sait que la période, c'est à peu près 860 avant Jésus. Mais pourquoi Jonas? C'est pourquoi cette histoire? Et vous connaissez la suite. On le jette à bord, il y a ce gros poisson. Et puis on va aller parcourir le reste de l'histoire. Et en fait, à cette période, la foi d'un sauveur se perdait de jour en jour. Et les promesses de Dieu qui avaient été faites étaient au fur et à mesure oubliées. Mais aussi et surtout parce qu'à cette époque, les commandements que Dieu avait donnés étaient ouvertement transgressés. Et donc Jonas est un des prophètes que Dieu missionne, d'une part pour reprendre le peuple et dénoncer leurs mauvais agissements, mais aussi pour leur rappeler la volonté de Dieu, pour leur rappeler les promesses de la venue du Messie et pour leur rappeler toutes les gloires à venir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on sait de Ninive? parce qu'il dit « Lève-toi et va à Ninive ». Donc, Ninive, on sait que c'est la capitale de l'Empire d'Assyrie. On sait que c'est à peu près 150 000 habitants, 120, 150 000 habitants, à peu près l'équivalent de Nîmes. Entourée de grandes murailles, de tours très très hautes, elle était le QG du gouvernement. Elle était la concentration de toute la richesse du royaume. Mais, et surtout, elle était le haut lieu de tous les crimes, de la prostitution et de tous les délits. Nulle part ailleurs, il y avait d'autres régions où il y avait plus de crimes, de délits et de prostitution qu'à Ninive. Et comme pour l'histoire de Babel, il est dit dans la parole, leur méchanceté était montée jusqu'à l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle Jonas intervient. Et la raison pour laquelle Dieu appelle Jonas pour intervenir pour Ninive. Donc Dieu connaît Jonas, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a formé, c'est lui qui l'aime profondément comme un père peut aimer son fils. Il connaît ses forces, il connaît ses faiblesses, ça vous rappelle quelque chose, la prédication sur Gédéon que j'avais fait, c'était un peu le même contexte. Jonas a reçu toutes les capacités pour faire la mission que Dieu lui donnait. Et là, la mission est claire. Lève-toi et va à Ninive. Et pourtant, au verset 3, on lit « Alors Jonas se leva jusqu'à là. » C'est bon. Mais il s'enfuit à Tarsis. Et Tarsis, dans la parole, c'est la contrée la plus lointaine qui peut exister. Et il s'en va où ? Il s'enfuit où ? Loin de la face de l'Éternel. Jonas. En fait, à cette époque, Jonas savait que le roi d'Assyrie était en train d'opprimer le peuple de Dieu. Il savait que ce peuple était complètement dépravé, complètement dans le crime, complètement dans le délit, complètement dans toute cette prostitution. Et Jonas n'avait pas forcément envie que Dieu intervienne pour sauver ce peuple. Alors pourquoi cette histoire ? On va essayer de comprendre. Et pour ça, j'aimerais vous inviter à faire un retour en arrière dans Genèse 12, verset 1. On va voir un beau contraste. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. » Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Ou encore, plus loin dans la parole, Hébreux 11, verset 8, « Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu, qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il recevrait plus tard en héritage. » Par obéissance, il a quitté son pays, sans rien demander. Par obéissance, il a suivi ce que Dieu lui demandait. C'est pas un bel exemple d'obéissance ? Et mais Damien, tu nous parles de Jonas, et Jonas a désobéi. Donc le titre, ce serait pas forcément l'obéissance, mais plutôt l'obéissance versus la désobéissance. Alors qu'est-ce que l'obéissance ? Eh bien l'obéissance, c'est une attitude de reconnaissance face à la faveur déjà accordée par Dieu. Et cette faveur, c'est quoi ? C'est la grâce. Et cette grâce, aucun de nous la mérite. Et pourtant, il nous la donne. Alors comment être conscient et reconnaissant de cette grâce ? Eh bien, par l'obéissance. L'obéissance à Dieu intervient dans tous les aspects de nos vies. Au travail, à la maison, dans les études, dans les finances, dans notre éducation, dans nos choix, dans nos décisions, l'obéissance fait partie de notre quotidien. C'est un morceau de Dieu qui est en nous. Elle est aussi un trait de caractère qui confirme notre conversion. Et elle est le degré de notre maturité spirituelle. Et là, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas forcément vous faire du bien. Mais comme je suis là pour transmettre la parole de Dieu, je le dis. Ce n'est pas à nous de choisir comment obéir. Quoi faire ? Quoi laisser passer ? quoi lire, quoi prendre ou quoi laisser de côté quand je lis ma Bible. Obéir, c'est mettre en application toute la volonté de Dieu depuis Genèse 1 jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Et on ne laisse rien. C'est mettre en application cette volonté intégrale de Dieu, de toute la parole. Donc on sait ce que l'obéissance est, mais du coup, pourquoi obéir ? Parce que nos bénédictions, en fait, sont finalement cachées dans l'obéissance. Deutéronome 28, verset 1 dit « Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. » Dans la suite de ce passage, il y a 14 versets qui énumèrent toutes les bénédictions de Dieu. Mais attention, c'est mentionné « si tu obéis ». Ce n'est pas « tu auras toutes ces bénédictions ». Non, « si tu obéis ». L'amour de Dieu est inconditionnel. Mais ces bénédictions, elles, elles sont conditionnelles. Alors revenons à Jonas. Jonas voulait se protéger du roi d'Assyrie. Mais Dieu, lui, voulait sauver ceux qui étaient perdus. Jonas regardait à son propre intérêt, mais Dieu, lui, savait quelle œuvre il voulait faire. Et au lieu de se diriger dans l'endroit où Dieu l'a appelé, à Ninive, Jonas se détourne, il s'enfuit et il va vraiment dans la direction opposée. Pourquoi il fait ça ? Tout simplement parce que c'est plus simple de fuir. C'est plus simple de fuir, plus simple d'écouter les désirs de ce monde. C'est plus simple de fermer les yeux, de fermer les oreilles et de ne pas forcément écouter la volonté de Dieu. De nous-mêmes, on ne peut pas voir ce qu'il y a derrière notre obéissance. Et de l'autre côté de l'obéissance, il y a quoi ? Il y a la volonté de Dieu et il y a les bénédictions de Dieu pour nous. Alors comment obéir ? On l'a dit, les bénédictions sont soumises à l'obéissance. Et l'obéissance est soumise à sept principes que je voudrais évoquer avec vous. Ce matin, le principe numéro un, obéir à Dieu, c'est connaître sa volonté. Josué 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Comment connaître la volonté de Dieu ? Plongeons-nous dans la parole. Imprégnons-nous de la Bible. Lisons, méditons. Prenons ce temps en toutes circonstances. Pas seulement quand ça va. Pas seulement quand ça ne va pas. Prenons ce temps à part. Rapprochons-nous du Père et ayons cette relation intime pour qu'il puisse se révéler à nous. Principe numéro 2, obéir à Dieu, c'est soumettre notre volonté à sa volonté. Jean 5, verset 30. « Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Quand je prie, je soumets ma volonté à celle du Père pour savoir si elle est vraiment alignée. Si vous ne savez pas prier, Henri fait un excellent module sur la prière. N'hésitez pas à aller le voir. Et vous verrez que c'est super important de chercher à aligner notre volonté à la volonté de Dieu. Principe numéro 3, obéir, c'est marcher à contre-courant. On l'entend beaucoup ça. Romains 12, verset 2. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Ou encore dans Psaume 1, verset 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et ça, ça fonctionne pour les jeunes, mais ça fonctionne pour les moins jeunes. Et les beaucoup moins jeunes. L'obéissance à Dieu est contraire aux règles de ce monde. Soyons-en certains. L'obéissance est contraire aux règles de ce monde. Principe numéro 4. Obéir à Dieu, c'est payer un prix. Aïe. Celui-là, je m'en serais bien passé. Luc 9, 23. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Les bénédictions de Dieu ont un prix. Me trouver là, ici, ce matin, devant vous, ça a un prix. Vous vous êtes levé pour venir ce matin dans l'assemblée, vous avez payé un prix. Et si vous suivez Dieu, si vous suivez Jésus, vous payez un prix. Les bénédictions de Dieu ont un prix. Et payer le prix, ça peut vouloir dire aussi d'être capable de se séparer de certaines personnes, de certains boulots, de certains conforts, de certaines positions sociales. Ça aussi, c'est payer un prix. Quitter le pays pour se lancer dans un projet. Principe numéro 5. Obéir à Dieu, c'est accepter aussi des moments de doute et des moments d'incertitude. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est humain et c'est normal d'avoir des doutes. C'est humain et c'est normal d'avoir des craintes. Surtout quand on croit en Dieu, surtout quand on suit Dieu et qu'on voit que rien ne se passe. Mais faisons-lui confiance. Vous vous rappelez de cette prédication sur Lazare ? Personne ne comprenait pourquoi Jésus n'avait rien fait. Dieu, il sait exactement. Et Andrew l'a dit. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se dérouler. On ne connaît pas notre point final. Mais Dieu, lui, il sait. Et son timing est bon. Il est parfait. Principe numéro 6. Vous êtes encore avec moi ? Si votre voisin s'endort, mettez-lui un petit coup de coude. C'est Farid qui avait dit ça la semaine dernière. Principe numéro 6. Faites-le pour de vrai. Hein. Et s'ils se plaignent, qu'ils viennent me voir à la fin. Obéir à Dieu, c'est persévérer. Luc 21, verset 19. Par votre persévérance, vous sauvegarderez vos âmes. Les amis, persévérons. Armons-nous de patience. Gardons la foi en toutes circonstances. Quel que soit le temps que ça prendra, on sait que Dieu agira. On le sait. Et dernier principe, mon préféré, principe numéro 7, obéir, c'est se tenir prêt pour les bénédictions à venir. C'est se tenir prêt à peut-être déménager pour aller là où Dieu veut nous utiliser. Chérie, on habite à Paris, nous voilà à Bezousse. Se tenir prêt à peut-être changer de vie, de travail, de priorité, de position sociale, comme je disais tout à l'heure. Se tenir prêt à sûrement sortir de sa zone de confort. Je ne vais pas faire lever les mains de tous ceux qui sont sortis de leur zone de confort dans l'année précédente, mais il y aurait beaucoup de mains levées. Et ça montre une belle obéissance. Se tenir prêt, c'est aussi croire que Dieu veut nous utiliser d'une façon dont on n'aurait jamais imaginé. Vous avez devant vous la personne la plus timide de la salle. Et pourtant, je suis là. Pourquoi ? Parce que je veux obéir. Se tenir prêt à aller là où Dieu veut te bénir, toi, ta famille et ton entourage. Jésus était l'exemple parfait d'obéissance et il a passé toute sa vie à obéir à son Père. Jésus connaissait la volonté de son Père. Jésus soumettait sa volonté à la volonté de son Père. Jésus marchait à contre-courant face aux pharisiens. Et Jésus a aussi des moments de doute, des moments d'incertitude. Mais Jésus a persévéré. Et Jésus se tenait prêt pour la volonté de Dieu. Et par-dessus tout, Jésus a payé un prix à la croix. Et quel prix ? On l'a dit, il a donné sa vie pour nos péchés. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir accès au Père. Ça, c'est de l'obéissance. Et ça, c'est cet exemple que nous voulons suivre. Alors, on parle beaucoup d'obéissance. Mais du coup, quelles sont les conséquences de la désobéissance? Parce que là, Jonas, finalement, ben, c'est son histoire. Farid nous a dit dans une prédication, donner sa vie à Christ, c'est la plus belle chose qui peut nous arriver. Et en même temps, la chose la plus difficile. Marcher avec Dieu, c'est obéir, c'est se soumettre. C'est pas naturel, ça demande de faire des efforts. Alors que finalement, marcher dans ce monde, c'est peut-être un peu plus naturel, peut-être un peu plus simple. Mais j'ai une question pour vous ce matin. C'est quel maître décidons-nous de suivre? À qui voulons-nous obéir ce matin? Je ne suis pas perdu dans mes notes, hein. Réfléchissez bien. Mon père est pasteur dans une église en Normandie et depuis petit, j'obéissais à mes parents. Enfin, ça, c'est ce que j'ai écrit. J'ai essayé, parce que s'ils réécoutent, ils vont me dire que c'est faux. J'ai essayé d'obéir à mes parents. Non, pourquoi je parle de ça? Parce que dimanche après dimanche, j'allais à l'église. Conférence après conférence, meeting après meeting. On les suivait, nous, les trois enfants. Et on obéissait. En tout cas, on essayait. Et puis après, je suis devenu adolescent, puis jeune adulte. Et malgré cette éducation chrétienne, j'ai voulu suivre ma propre vie, ma propre route. Et c'est là que, par contre, ma vie est devenue complètement décousue. À 22 ans, je pars vivre à Paris. Et si je résume ma vie à cette époque, je suis l'exemple parfait de tout ce qu'il ne faut pas faire. Je ne rentrerai pas dans les détails. J'allais à l'église le dimanche parce que je savais qu'il fallait obéir à Dieu. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit. Et je pensais lui obéir, mais en fait, j'obéissais à l'ennemi. J'avais pas cette sainte crainte de Dieu. Et mon problème à cette époque, c'est que j'avais pas saisi la puissance de l'amour que Dieu avait pour moi. J'avais pas saisi la vraie définition de la grâce. Pour moi, ce que je vivais, c'était de la religion. C'était pas une vraie relation avec Dieu. J'avais pas saisi que tout ce que Dieu avait en réserve pour moi était bien plus grand que toutes ces sorties en boîte, que toutes ces belles voitures, que toutes ces jolies filles. Alors dimanche matin, j'étais à l'église, je chauffais ma chaise pendant 2 heures, et puis les 6 jours restants, je faisais partie du monde. Et pour moi, ça allait, parce que je faisais ma bonne action de la semaine, et je me disais que, après tout, on m'a dit que Dieu était un Dieu de grâce, donc je peux mener ma vie comme je voulais. À cette époque-là, je n'avais pas compris les 7 principes dont on a parlé juste avant, ces principes de l'obéissance et de la soumission à Dieu. Et je savais que j'étais dans le péché, je savais que j'étais dans l'obéissance. Puis des fois, j'essayais de m'en sortir, mais par mes propres forces. Et à chaque fois, je faisais face à un mur. Et pourquoi j'arrivais pas à avancer? Parce qu'en fait, dans le fond, j'aimais mon péché. J'aimais ma désobéissance. C'était simple. C'était bon. Ça ne me demandait pas d'effort. Mais laisse-moi te dire ce matin que si tu refuses d'obéir à Dieu, tu devras forcément obéir au camp de l'ennemi. Et lui, il veut faire quoi? Voler, tuer, détruire. Pendant des années, j'ai eu peur de Dieu, pensant que c'était un Dieu de jugement. Pendant des années, j'ai fui mon appel. Pendant des années, j'ai fui les paroles prophétiques que j'avais reçues. J'ai fui cette relation avec Dieu. Et je me cachais, comme Jonas, dans sa cale. Je m'endormais paisiblement le soir. Je me cachais dans ma désobéissance. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu de mon péché. Et Dieu est venu me chercher dans les profondeurs, là où j'étais, parce qu'il savait exactement ce qu'il voulait faire avec moi. Alors j'ai crié à Dieu, et puis je me suis repenti, et je me suis aussi soumis. On a parlé de l'obéissance, mais on parle aussi de la soumission. J'ai été intentionnel dans ma relation avec Dieu. J'ai pris cette ferme décision de ne plus obéir à l'ennemi, mais d'obéir à Dieu et de le suivre, mais pour de vrai. Pas juste en apparence, pas juste 2 heures le dimanche matin. Et c'est quand on réalise à quel point Dieu nous aime et nous fait grâce, c'est là qu'on change radicalement. Alors oui, obéissons, mais n'obéissons pas bêtement sans savoir pourquoi. Obéissons par amour à ce papa qui désire ardemment déverser une pluie de bénédictions sur nos vies. De cette obéissance à Dieu découlent toutes les promesses et toutes les bénédictions, par-dessus tout, une vie éternelle avec Dieu. Alors, ne faisons pas comme Jonas, quand il nous demande d'aller à Ninive, de partir à Tarsis. Mais au contraire, obéissons-lui et allons là où il nous appelle. Allons dans la direction où il veut nous utiliser. Coûte que coûte, il veut se servir de chacun de nous ici. Est-ce que vous le croyez ? J'aimerais revenir sur Jonas et je voudrais finir avec ça. Jonas s'est retrouvé au fond de l'océan. Et c'est là qu'il a pris conscience de sa condition. Il était comme mort dans le ventre du poisson. Et là où il n'y avait plus d'échappatoire, pendant 3 jours et 3 nuits, c'est là qu'il a crié au Seigneur. Dans Jonas 2, on lit « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est venue jusqu'à toi. » Jonas se repent, il implore Dieu de le sauver. Et Jonas finit par se soumettre. Vous savez ce qui se passe après ? Au bout de 3 jours, le poisson le recrache sur la terre ferme. Il ne le recrache pas dans la mer, hein. Il le recrache dans sur la terre ferme. Dieu renouvelle son appel, parce que Dieu connaît son fils. Dieu renouvelle sa mission. Jonas fait quoi ? Jonas obéit. Jonas se rend à Ninive et Jonas prêche. Écoutez ce que dit la parole, c'est fort. Les hommes de Ninive crurent en Dieu. Un jeûne d'humiliation et de pénitence fut publié par le roi. Ils crièrent à Dieu de toutes leurs forces et se convertirent. Vous n'avez pas compris, je vais relire. Les hommes de Ninive crurent en Dieu. Un jeûne d'humiliation et de pénitence fut publié par le roi. Ils crièrent à Dieu de toutes leurs forces et se convertirent. On parle de 150 000 habitants. Imaginez Nîmes, on envoie Farid prêcher. Et Nîmes, dans sa totalité, pisse vin compris, se convertit. C'est excellent. Toute la capitale donne sa vie au Seigneur. Toute cette capitale se détourne du péché. On ne parle pas d'une petite capitale, on ne parle pas d'un petit village de pécheurs. On parle d'une capitale entière qui était voué au péché. Dieu a utilisé Jonas d'une manière incroyable. Mais il fallait que Jonas lui fasse confiance. Il fallait que Jonas se soumette à la volonté de Dieu. Il fallait que Jonas écoute l'appel de Dieu. Et souvent dans notre vie, on a l'impression que c'est plus simple d'avancer en ignorant les commandements. Mais ce que Dieu est en train d'écrire avec chacun de nous est immensément plus grand que ce qu'on peut imaginer. Croyez-le. Alors je voudrais vous laisser avec 2 questions ce matin. Sommes-nous vraiment à l'écoute du Seigneur ? Sommes-nous vraiment à l'écoute du Seigneur ? Et est-ce que on lui obéit ? Est-ce qu'on lui obéit vraiment ? J'aimerais conclure avec Deutéronome 30, verset 15. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. La mort, tu dis que je ne suis pas disponible. Le bien, la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies. Et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Farid, la semaine dernière, a prêché sur le fait de ralentir le rythme. Et je voudrais nous le rappeler ce matin. Si vous n'avez pas écouté la prédication, elle est sur le site. Je voudrais nous rappeler de prendre le temps de nous arrêter, de prendre la parole, de lire, de nous poser. Ralentissons nos rythmes, nos journées qui sont surchargées, qui sont suractivées par des notifications, qui sont suractivées par des services en tout genre. Parce que Dieu ne peut pas nous parler si jamais on est trop actif. Comment entendre la volonté de Dieu si on ne prend pas le temps de l'écouter ? Soyons intentionnels dans notre relation avec Dieu et prenons ce temps. Ce n'est pas juste un conseil, c'est plus que ça. Est-ce que pour prendre soin de mon couple, je dois être intentionnel avec ma femme ? Est-ce que pour être intentionnel dans ma relation avec mes amis, je dois prendre ce temps pour construire quelque chose de fort ? Oui. Alors à combien plus forte raison je dois le faire avec le Père ? Et puis faisons ce choix d'obéir à Dieu et à sa volonté plutôt qu'aux désirs de ce monde. Et finalement, osons nous repentir. Et osons crier à Dieu. Lui qui a parlé des groupes de croissance. Osons nous rendre vulnérables. Osons faire part de ce péché dans lequel on est et le partager. Pourquoi faire tout ça ? Ben simplement pour voir les fruits de notre obéissance. Pour voir toutes ces bénédictions. Et pour voir la volonté de Dieu s'accomplir, tout simplement. Soyez bénis.